France Musique.
Bonsoir Lionel Esparza, je vous souhaite un bon week-end. On vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Moi j'ai trahi la musique respectable et la musique concrète. Et le violoncelle de mon enfance pour le magnétophone.
Tapage nocturne.
Et pour le potentiel.
Bruno Le Thor, France Musique.
Et si ce week-end vous voulez découvrir ou redécouvrir Pierre-Henri, eh bien cela se passe ici à la Maison de la Radio avec une série de concerts rassemblant des œuvres de jeunesse jusqu'aux dernières compositions, sans oublier l'hommage qui lui sera rendu par le GRM, le groupe de recherche musicale, ce samedi à 18h et ce dimanche à 16h, avec des pièces de Yannis Xenakis, François Bell, Luc Ferrari et Pierre Schaeffer. Et demain, dans la soirée, sur France Musique, en direct à 20h, un grand écart temporel avec les premières œuvres pour piano inédites de Pierre-Henri, datées de 1945, interprétées par Cécile Maison-Haute au piano, et les deux dernières œuvres du compositeur disparu à la veille de ses 90 ans, en juillet dernier. Variation pour les cordes du piano de Pierre-Henri, Pierre-Henri que l'on fête ce week-end à la Maison de la Radio à Paris.
France Musique, tapage nocturne, Bruno Le Thor.
L'invité de ce tapage nocturne est le compositeur Philippe Hurel. Né en 1955, bercé par le rock psychédélique et le jazz fusion, son parcours questionne sans relâche les interstices du timbre et de la pulsation. De sa plume, il esquisse de nouveaux territoires qui bordent ses recherches menées à l'IRCAM et sa mémoire sonore abreuvée de rythmes chaloupés, de mesures composées et de virtuosité instrumentale. Philippe Hurel est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Philippe Hurel.
Bonsoir Bruno Le Thor.
Alors votre langage est fortement axé sur le timbre et sur le processus d'anamorphose de la matière sonore. Est-ce que pour vous c'est une évolution de la dialectique spectrale ?
En tous les cas, elle est liée directement puisque dès les premières pièces dites spectrales, prenons par exemple le partiel de Grisé, il y a une transformation dans le temps du timbre en permanence qui fait qu'on ne sait plus ce qu'on entend au fur et à mesure, ce qui n'est pas loin d'anamorphose. On ne sait plus ce qu'on voit, on ne sait plus ce qu'on entend. Alors c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même dans le contenu même de cette musique-là cette idée qu'on est leurré par ce qu'on entend en fait.
Pourtant, il y a un élément qui n'existait pas, en tout cas peu avant dans la musique spectrale, c'est l'écriture verticale que vous avez.
Oui, c'est d'ailleurs l'écriture un peu big band, moi j'appelle ça un peu comme ça, mais ça c'est mes mauvaises influences. C'est mon côté, j'ai traîné dans le jazz, le funk, les musiques un peu populaires avec des beaux guillemets. Mais donc j'ai fait des musiques qui étaient en contradiction totale justement avec ce discours lent et un peu, comme on disait, l'hypnose de la lenteur, comme disait Gris à l'époque, qui était sous l'égide de l'hypnose de la lenteur. Et c'est des musiques qui étaient plutôt rapides, swingantes, groovantes, etc. Donc ça fait un genre de mélange très, très bizarre, que moi, par moment, je comprends pas non plus, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un moment, faut accepter d'où on vient, puis l'intégrer comme on peut.
Vous ne comprenez pas le sens de la pulsation, ou...
Non, c'est-à-dire, je comprends pas comment j'ai pu refuser ça pendant une période de ma vie, quand j'étais jeune compositeur, parce que j'étais très marqué par des aînés, certainement.
Bien sûr.
Et comment c'est revenu à un moment donné de ma vie, et comment maintenant je l'accepte avec toute la naïveté que ça peut avoir d'ailleurs. Il y a des choses naïves dans ce que je fais dans ces cas-là, mais je les regarde, je dis ouais, ben je le prends, voilà. Et puis après ça fait, alors justement pour le mot, vous avez employé le mot dialectique, c'est justement là que ça m'intéresse, c'est comment ça frotte avec un autre type de langage organisé autrement. C'est plutôt là que ça m'intéresse.
Alors justement, c'est cette histoire de rythme, il y a eu la période d'aide à la composition, je pense, ouais. Notamment au Carla.
Ouais.
Là aussi, vous avez découvert des choses sur vous-même, presque.
En fait, le problème, c'est qu'il y a deux façons d'envisager. Enfin, il y a deux façons.
Peut-être qu'on peut revenir pour expliquer ce qu'est le Carla.
Voilà. Alors, Carla, c'était un programme. C'était pas la femme du président. C'était un programme.
De l'ex-président.
C'était un programme qui avait été initié à l'IRCAM avec Francis Courtois qui programmait et Jarel Stropa et moi avons travaillé un peu comme cobaye à l'élaboration de ce truc. Qui était un peu basé sur autre chose que le système des contraintes avec Open Music et ces programmes-là, qui sont c'est du langage orienté objet, en fait. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans les détails de cuisine, ce n'est pas très intéressant, mais ça fonctionnait autrement. Et donc, je me suis pris la tête avec des rythmes dans les six miniatures en trompe-l'œil, qui sont une histoire d'anamorphose, pour revenir à ce que vous disiez. Il y a des rythmes groovants dans cette pièce-là. Mais en fait, on peut concevoir le rythme de plusieurs façons. Par exemple, quelqu'un comme Mauro Lanza, que j'admire beaucoup, jeune compositeur qui n'est plus si jeune, puisqu'il a la quarantaine maintenant, mais travaille plutôt sur des décalages rythmiques et des choses comme ça, où ça groove pas toujours, mais c'est simplement qu'on sent que il y a des pulsations impossibles, d'une certaine manière, ce qui est très intéressant. On rejoint encore l'anamorphose, il vient plutôt du post-spectralisme. Mais par contre, on peut se dire qu'on n'est pas toujours là-dedans et qu'on annonce le rythme comme une pulse vraiment franche et déterminée. Moi, ce que je fais par moment, après je décale avec des petits calculs savants, mais souvent c'est assez physique, rythmiquement. Et c'est influencé directement par des musiques qui sont pas passées par la composition par ordinateur.
Oui, parce que Loops, par exemple.
Ça, c'est des travaux je m'étais amusé à la main à voir ce qu'on pouvait retenir justement de toute l'influence de l'ordi dans l'interpolation des rythmes, dans le morphing des rythmes. Et je m'étais amusé à voir comment on pouvait, à partir d'un rythme simple, aller vers des rythmes plus complexes et revenir au même rythme. Etc. C'était très amusant à faire. Mais voilà, ça avait une limite. La limite, c'était... pour moi, ça m'a aidé à concevoir d'autres choses, après avec la machine ou sans la machine, d'ailleurs. Mais c'était juste un passage. Il suffit que ces pièces-là ont été beaucoup jouées sans que je le désire vraiment. À une époque, c'était assez rigolo. C'était un chantier, quoi. Thank you.
vous avez beaucoup travaillé à l'IRCAM, on vient d'en parler. Comment vous voyez l'évolution de cet institut aujourd'hui?
Alors, je le vois pas bien, parce que j'y suis pas souvent. Et j'y vais que comme compositeur pour une prod maintenant. Donc j'ai une très mauvaise vision, je vais dire des conneries si j'en parle maintenant. Je sais que les compositeurs se réunissent beaucoup justement pour essayer de voir comment on pourrait... Moi j'ai qu'une vision très momentanée, enfin j'y vais pas pendant 2 mois, je travaille avec quelqu'un, on est enfermé. Ce que je vois par contre, c'est quand je vois des jeunes compositeurs, même j'étais prof à Lyon pendant 4 ans, et quand ils utilisent des outils comme cela, ils sont plus perfectionnés, plus opératifs. Par contre ce que je vois, c'est que les philosophies changent peu. C'est-à-dire que je suis pas très étonné de ce qu'ils manipulent, comme notamment pour la CAO, la composition assistée par ordinateur. Finalement, c'est des choses qu'on avait lancées dans les années 90, du début des années 90, 90, 91, 92. Je retrouve les mêmes types de concepts. Et en fait, ils sont, ça va plus vite. Donc les machines sont plus opérationnelles. Mais je parle avec les jeunes gens de choses qui me semblent assez naturelles, en fait. Je vois pas... L'évolution, je pense qu'il y a dans la musique et dans tous les domaines de la pensée, il y a des évolutions rapides à des moments et des moments un peu plus stagnants. Je sais pas si en ce moment on est dans un passage où tout change beaucoup. Je ne crois pas vraiment. Donc en fait, on chiade un peu ce qui est déjà fait. Donc c'est pour ça que je m'y retrouve assez facilement. Ça me désoriente pas tellement.
Vous parliez d'enseignement, c'est un acte important pour vous.
Alors moi, écoutez, moi j'ai accepté d'être à Lyon, au CNSM de Lyon, comme ça, parce qu'on me l'a demandé, sans trop comprendre ce qui m'arrivait. Et je vais vous raconter un truc un peu personnel, mais c'est au moment où mon dernier enfant de la maison a quitté le foyer. Et j'étais assez malheureux, je dois dire, à ce moment-là, parce qu'au bout de 37 ans d'enfant à la maison, on a du mal à vivre sans enfant. Et donc j'ai pris ce poste, et je me suis aperçu que je me suis attaché aux gamins, parce que moi, l'expression, ils avaient 25-30 ans, mais de façon déraisonnable, c'est-à-dire j'avais envie de travailler tout le temps avec eux, de les faire. Et quand j'ai arrêté pour des raisons un peu de santé, dans le sens où faire les allers-retours, plus un ensemble sur le dos, plus un compo, j'arrivais plus trop. Et je le regrette d'une certaine manière parce qu'il me manque. Ça, c'est un truc, c'est terrible. Être piqué à la seringue d'enseignement, c'est un truc qui est. Moi, je trouve que ça équilibre beaucoup. En tant que compositeur, on est très angoissé par la page blanche, vous le savez aussi bien que moi, par le devenir permanent de ce qu'on a à faire. Et l'enseignement, c'est un truc qui vous. Qui permet de se recadrer tout le temps sur ce qu'on a fait avant, comment on va le transmettre, qu'est-ce qu'on peut leur dire, comment on peut les faire avancer, comment on peut leur mettre le pied à l'étrier. 4 ans de bonheur, je dois dire, mais vraiment un grand bonheur, et ça me manque terriblement. Thank you.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
En 1991, vous créez l'ensemble Court Circuit. Qu'est-ce qui vous pousse à fonder un ensemble à ce moment-là?
Alors, comme son nom l'indique, au début, c'était pas un ensemble, c'était un genre de machin qu'ils appelaient donc Court Circuit, qui était le plus court circuit pour aller de. Les CD faisaient rage à l'époque. On voulait faire des CD. Tous les compositeurs voulaient faire des CD. Et c'était une petite assoc qui permettait d'aller plus vite entre Spedida, Madami, subventions privées, il y en avait peu, mais il y en avait un peu, etc., etc. SACEM, MFA, machin, pour permettre aux compositeurs d'aller de son projet jusqu'à la réalisation du truc. Et j'ai fait 2-3 CD au début pour des gens. Il se fait que Pierre-André Valade, qui est actuellement chef, mais qui était flûtiste à l'époque, m'a dit « Philippe, j'aimerais diriger, montons un ensemble. » Et comme j'avais la structure, ça s'appelait Court Circuit. Mais l'idée au début, c'était de faire... Alors, ce qui reste de ça, de cette idée-là, c'est que j'aime bien l'idée que tout le répertoire qui n'était pas défendu par les grosses institutions comme l'Ensemble Intercontemporain, pièce type Thaléa de Grisé, 5 musiciens dirigés ou 6 musiciens dirigés, Vortex, tous ces trucs-là que joue le IC, mais c'est pas tellement leur fond de commerce d'une certaine manière. On s'est dit comment le faire avec beaucoup de répé dans les meilleures conditions, avec une petite structure où on se connaît bien, de la musique de chambre dirigée. Voilà. Et en fait, on s'est orienté vers ça avec l'idée à l'époque post-spectralité, oui, mais avec cette notion de groove que moi j'avais, que Pierre-André Valade, et puis il le dit pas parce qu'il est pudique, mais moi j'ai fait du jazz rock avec lui, il avait 16 ans, j'en avais 20. Donc on jouait à une musique post My Vishnu Orchestra avec des mesures amalgames, etc. Et puis voilà. Et on a beaucoup traîné nos guêtres tous les deux à jouer de la musique comme ça. Et donc on est devenu sérieux, rangé. Mais on avait gardé cette idée que la musique aussi, elle avait un potentiel rythmique et pulse qu'on voulait pas abandonner. Alors ça fait un genre de truc comme ça. Voilà, c'est une belle expérience.
Et vous adorez Jacob Collier?
Ah bah il est. Je sais pas si je l'adore. On peut pas dire qu'il invente des nouvelles choses complètement. Il reprend des choses qui existent, mais il est tellement talentueux et puis il a des idées harmoniques complètement hallucinées. Quoi. C'est quelqu'un que je trouve éminemment doué. Et je pense que c'est un type. Il ouvre quelques portes par moment qui vont plutôt dans notre sens. Il est à la marche par moment. Il fait des trucs un peu barrés. L'autre jour, il donnait un cours sur le net. J'ai vu parler de micro-intervalité dans la voix. Il est quand même bizarre ce garçon. Voilà, donc moi j'aime bien les gens comme ça, un peu. Voilà, on n'aime pas ce garçon, mais je trouve qu'il est talentueux à mourir.
Vous avez composé des pièces en hommage à Georges Perec.
Ouais.
Est-ce que là aussi, c'est l'aspect du jeu, de la construction singulière qui vous a attiré ?
Il y a un truc que j'adore chez Perec et dont je me sens super proche, c'est le fait que j'aime pas la profondeur. Je suis un ennemi de la profondeur. C'est-à-dire qu'une œuvre soit profonde, ça m'emmerde, vraiment, passez-moi l'expression, mais j'aime bien que ce soit pas dit comme ça. Et chez Perec, il y a une façon... W est pas un de ses plus grands livres, vous parlez des camps de concentration où les morceaux ont une partie de sa famille, mais je veux dire, la façon dont il a de parler de ça, s'il en fait un genre de stade, enfin de club où on fait du sport, et en fait on découvre petit à petit, c'est une façon de dédramatiser les choses les plus graves. Et je trouve que c'est remarquable chez Perec. Il y a des gens qui détestent ça, parce qu'ils trouvent que c'est humoristique pour rien. Moi, je trouve pas que c'est humoristique, c'est typiquement grave, parce qu'à travers une façon... à travers un langage quelquefois un peu léger, il y a une prise de position très 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 lourde sur les choses. Espèce d'espace que j'ai mis en musique, par exemple, c'est un truc qui paraît drôle, mais moi j'avais vu avec la famille Perec la façon que j'avais de pouvoir le mettre en musique. Il m'avait donné l'autorisation de faire des coupures, etc. Et j'ai viré tout le côté un peu marrant. Le Perec un peu léger comme ça, j'ai gardé que la base de ce qu'il disait, en fait, c'est de la philo, d'une certaine manière. Donc, il y a chez ce type-là quelque chose que j'adore, qui est une façon d'être. Comment peut-on être léger avec des choses qui ne le sont pas ? Et puis, c'est quelqu'un qui écrit éminemment bien. Il y a un travail sur l'écriture qui est profond, et à la fois, il y a une distance par rapport à la pesanteur que pourrait prendre son discours. Moi, ça m'émeut beaucoup, mais je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire, c'est pas dans la démonstration, c'est quelque chose. Enfin, c'est des démonstrations techniques, si. Si on prend ses livres les plus importants. Mais il y a La Disparition, c'est une démonstration technique terrible. Mais il y a...
Très réussi.
Ouais, c'est génial. Mais moi, je l'ai offert à mes enfants jeunes, hein, ils avaient 12-13 ans, ils se fendaient la poire, parce qu'il y a aussi une dimension très drôle, qui pourrait être une forme de groove que j'ai dans ma musique, par exemple. Ce degré de liberté qu'il avait, qui est contrainte, parce qu'évidemment, pour écrire sans eux pendant des pages, c'est une contrainte terrible. Alors, c'est ce mélange contrainte, liberté, déconnade, sérieux, profondeur, pas profondeur. Moi, ça me touche, mais c'est très personnel. C'est la rencontre que j'ai faite avec cet écrivain.
Vous venez du jazz rock,
ouais.
Vous l'avez dit tout à l'heure. À quel moment il y a eu cette bascule, vous avez découvert des compositeurs qui vous attiraient?
Mais c'est un truc incroyable parce que j'avais appris le violon au conservatoire de Toulouse. J'étais pas un super violoniste, mais je faisais mon petit bout de chemin comme ça. Et puis je voyais très bien ce qui pouvait m'attendre si je continuais, jouer au troisième rang, pas dans un orchestre, peu importe. Et puis j'ai tout arrêté quand j'avais 14-15 ans pour me construire, pour me fabriquer une guitare électrique. Alors j'ai pris une planche de bois, j'ai mis un manche, j'ai choisi. Elle était fausse d'ailleurs.
Et lourde.
Et lourde, super lourde. Après j'ai une guitare même, vous savez, c'est une guitare transparente qu'on faisait à l'époque, qui vous arrachait l'épaule. Bon voilà, et j'ai continué le violon, mais je jouais de plus en plus mal le répertoire classique parce que je prenais tout en dessous. Je jouais comme ça du violon. Donc c'est... Et puis j'ai monté différents groupes avec des gens qui travaillent à Marciac maintenant, d'autres qui ont fini avec Luba. Donc j'ai travaillé avec des gens à Toulouse super forts, bien plus forts que moi, instrumentalement. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'écrivais des thèmes pour me dédouaner un peu. Donc j'ai écrit de la musique pour eux. Et puis on a joué comme ça, on jouait en amateur, tout, on savait pas trop. Je suis rentré à la fac musico, je sais pas bien pourquoi, je sais pas ce que je foutais là. Et là j'ai entendu Xenakis. Et ça fut un bouleversement total.
Vous vous souvenez de l'œuvre?
Ouais, c'était Sinafai. J'ai pris une claque. Le truc, bah, j'ai dit, purée, c'est...
Qu'est-ce qui vous a fasciné?
la tension, le son, le déchirement, le truc. Alors moi qui n'aime pas la profondeur, justement, je disais la crise, on est mal barré. Mais on peut être contradictoire, on a le droit. On peut aimer chez les autres ce qu'on n'aime pas chez soi. Hein. Moi j'aime bien les intérieurs bordéliques, je suis tout design minimaliste, mais j'adore chez les autres ce que je ne sais pas faire. Et pareil en musique d'ailleurs. Mais quand j'ai écouté Xenakis la première fois, je me dis mais c'est incroyablement bouleversant cette musique, ça me chavire. Voilà, ça m'a pas empêché de continuer à écouter Herbie Hancock et tout ça, mais peu importe, ça m'a... Et là je me suis dit, allez, virage à droite... Je reprends mes études, harmonie, contrepoint, machin, je rentre à Paris, je veux rencontrer les profs, je suis allé chez Yves Malek, voilà. Puis après, ça a été très vite, en fait. C'est très bizarre, parce qu'on a une capacité autour de 20 ans à révolutionner ce qu'on est. Maintenant, j'en ai 62, je trouve que c'est dur. On a cette façon de balancer d'un revers de main des trucs sur lesquels on s'est fondé pendant 4, 5, 6 ans. Et puis après, je me suis aperçu que j'avais oublié justement ce que je vous disais, tout ce qui avait fait fonder aussi ma personne, d'une certaine manière, c'est que j'étais attiré par des musiques groovantes et je les avais oubliées. Et ça, c'est une connerie.
À quel âge vous avez redécouvert ça?
Dans les années 93-94, j'ai fait une déprime, puisqu'on parle intimement. J'ai pété les plombs un jour et j'ai un psy qui m'a dit « Mais vous êtes sûr d'écrire la musique que vous voulez faire ?» Je suis resté avec cette phrase pendant des jours et des jours, mais j'en ai pleuré. Je me disais « Mais je sais pas ce que vous voulez dire. » D'ailleurs, les pièces que j'écris de cette époque-là, je les aime bien, c'est pas le fond du problème. Mais je pense que je m'étais éloigné d'un truc qui me plaisait, que j'avais occulté. Et je le dis aux jeunes compositeurs que je connais, moi d'ailleurs, je leur dis « Mais faut essayer de faire sa cuisine sans oublier ce qu'on est. On n'est pas là pour faire plaisir à l'institution qu'on écrit de la musique. Donc il y a un truc qui doit rester... charnel tout le temps.
Et donc... Peut-être le poids de l'héritage ?
Ouais, beaucoup.
Plus qu'aujourd'hui les jeunes compositeurs.
Ouais, moi j'avais très peur à l'époque. C'est-à-dire que il y avait des figures tutélaires comme ça, et puis il y avait Grisé qui était vivant à côté de nous, qui était blabla et tout ça. Et il y a des choses que je me permettais pas. Ça c'est évident. Il a fallu que je passe par un genre d'inquiétude sombre pour arriver, alors là, dans les profondeurs totales de l'âme, pour arriver à retrouver un peu ce que j'étais. Mais c'était une belle expérience, je trouve. C'est la composition, je pensais ça. C'est une psychanalyse de tous les jours. Sinon, on ne sert pas à grand-chose, donc il faut bien se rassurer.
Thank you.
Quatuor à cordes.
Ouais.
Pour le Quatuor Diatima.
Oui. Bah, c'était un gros bonheur. En fait, le Quatuor à cordes, j'ai commencé ça en me disant, ouf, je suis violoniste, même pas super, et donc j'adore écrire pour les cordes. C'est vachement sympa d'écrire pour les cordes. J'ai des camarades qui écrivent beaucoup de timbres complexes pour les cordes. Moi, c'est pas trop mon truc. J'essaie pas de trouver des timbres inouïs, mais plutôt de voir comment ça peut foisonner avec des instruments qui ont un son commun. Et donc, ça libère de certaines choses, en fait. Se dire, par exemple, qu'on se retrouve avec un piano qui est en demi-ton, plus un machin, plus un truc, plus une percussion, on est en train de se poser des questions d'alliage permanent. Là, on a quand même un ensemble assez homogène. Et le fait d'avoir cet ensemble homogène permet de penser à autre chose, plus formellement. Moi, j'ai l'impression que je ne me suis jamais tant posé de questions sur... Je suis revenu, par exemple, à des calculs rythmiques, formels, tout, j'avais un peu abandonné. Et c'est vrai que j'y croyais pas, parce que c'est un lieu commun, dire le quatuor à cordes, c'est le moment du... Bah, d'une certaine manière, ouais, quand même. Je reconnais qu'après le deuxième, là, je m'aperçois que c'est un genre de mise en loge incroyable. Mmh. Et c'est très agréable.
Vous avez fermé la dernière page du quatuor à cordes.
Ouais.
Et maintenant?
Bah, j'ai fermé, puis le lendemain, j'ai commencé, pas parce que ça m'amuse d'enchaîner les pièces, je déteste ça. Simplement parce que j'avais une commande d'un concerto pour Jérôme Comte, clarinettiste de l'ensemble Intercon. Mais en dehors de l'ensemble Intercon, qui ne me joue plus, depuis longtemps. Et je n'en meurs pas d'ailleurs. Et donc avec Jérôme, on a essayé de faire notre bidouille à l'extérieur. Et donc c'est une commande d'un orchestre allemand de Cottbus plus l'orchestre de Normandie avec voilà et plus Buffet Crampon qui nous aide. C'est un projet, on a mis un an et demi à monter ça, 2 ans parce que Jérôme voulait à tout prix qu'on fasse un truc ensemble. Moi j'adore ça. En fait, quand on travaille avec un mec qui a vraiment envie, c'est pas une institution qui vous commande. C'est un orchestre là-bas qui a envie d'un truc, voilà, et puis lui, le soliste qui est à fond. Et donc finalement, on arrive à... Donc voilà. Et l'orchestre veut ça pour le mois de mars, les partitions, mais c'est une horreur parce que ça veut dire qu'il faut finir en février, novembre, décembre, janvier, février, j'ai 4 mois pour écrire, et ils veulent 20 minutes et tout. Enfin voilà, les compositeurs, on a l'impression toujours qu'on est des machines à pondre de la musique, alors que c'est pas une réalité, ça, il faut que ce soit bien fait, on ne peut pas écrire ça n'importe comment. Donc je suis rentré en loge de nouveau, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'enseignement et tout, c'est parce que j'ai vu tous ces délais que je me suis dit, que faut-il privilégier, voilà. Mais ça c'est, je crois que vous le savez aussi bien que moi, tous les compositeurs, on a cette contrainte, quel temps on doit passer avec notre musique par rapport au temps qu'on donne aux autres dans des aventures plus communes, donc voilà. Mais non, c'est super, c'est des beaux projets, je suis heureux moi de travailler.
En tout cas, merci beaucoup Philippe Hurel,
ah bah,
d'être venu nous voir dans cette émission,
merci.
Et à bientôt. Thank you. Ainsi s'achève cette émission. À la technique était Jean-Michel Bernaud, attaché d'émission Soizic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est l'heure de Création mondiale, l'émission d'Anne Montaron.
À réécouter sur francemusique.fr.